Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « Lettres grecques, lettres chrétiennes » à l'occasion de la parution récente de deux livres sur la littérature grecque. Ce sont en fait deux anthologies qui proposent chacune une longue série de textes grecs depuis l'Antiquité jusqu'au temps byzantin. Le premier de ces deux ouvrages est un impressionnant volume de 1633 pages paru aux éditions des Belles Lettres sous le titre « Les Lettres grecques, anthologie de la littérature grecque d'Homère à Justinien ». Le second, paru en format de poche dans la collection Folio Classique chez Gallimard, est également un florilège de textes grecs et porte le titre « Anthologie de la littérature grecque de Troie à Byzance, 8e siècle avant Jésus-Christ au 15e siècle après Jésus-Christ ». Pour parler de ces deux ouvrages considérables qui intègrent tous les deux dans la longue série d'auteurs grecs qu'ils proposent des textes chrétiens, testamentaires et patristiques, nous recevons Luigi Alberto Sanchi, directeur de recherche au CNRS, qui a dirigé le volume paru aux Belles Lettres. Laurence Plasnet, écrivain, professeur à l'Université Clermont-Auvergne, qui est responsable du choix et des notes dans le volume paru chez Gallimard. Et Benoît Guin, professeur émérite de l'Université Grenoble-Alpes, grand connaisseur des écrits patristiques et collaborateur de l'anthologie parue aux Belles Lettres. Luigi Alberto Sanchi, nous commençons par vous. Vous êtes responsable de la conception d'un livre monumental qui est une somme de la littérature grecque et en même temps vous êtes le pilier central de sa réalisation, accompli avec le concours de 70 collaborateurs. Pourquoi ce travail gigantesque ?
Bien, merci beaucoup. Eh bien, le but de mon projet était très simple, offrir aux hellénistes, élèves, étudiants, enseignants, tous les passionnés, un large choix d'extraits présentés et annotés qui puissent tenir en un seul volume et qui soient organisés de manière, disons, encyclopédique, c'est-à-dire par époque, genre, auteur et œuvre, et non par thème ou selon des critères trop subjectifs ou à la mode. Bien sûr, la littérature classique se taille la part du lion, comme de juste. Homère, Platon, les tragiques, les historiens, les orateurs. Mais on y trouve aussi la poésie lyrique archaïque, l'épigramme, les œuvres des époques plus tardives, donc jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Et j'ai tenu à inclure les sciences, Hippocrate, Euclide, l'érudition et donc la religion, du judaïsme au christianisme, sans oublier les cultes orientaux. De cette manière, le lecteur a devant les yeux le large éventail de la production intellectuelle en grec et se rend compte du grand nombre de domaines où la civilisation grecque et hellénistique a marqué l'histoire mondiale et la littérature universelle.
Merci, on passe maintenant à Laurence Plasnet. Alors, le volume paru chez Gallimard est également très impressionnant. Il contient 935 pages des textes qui couvrent 23 siècles de production littéraire grecque traduits en français par Emmanuel Blanc. Quelle est l'idée générale qui parcourt cet ouvrage ?
Le plaisir. J'ai voulu composer cette anthologie pour donner envie de lire de la littérature grecque, qu'aujourd'hui on lit trop peu, et éventuellement donner envie d'apprendre le grec aux plus jeunes qui pourraient avoir ce livre entre les mains. Je me suis nourrie de ma propre expérience. J'ai pu apprendre le grec très tard avec Emmanuel Blanc, grâce à un proviseur de lycée remarquablement intelligent qui m'avait donné la permission de commencer le grec avec des élèves de classe préparatoire quand j'étais en terminale. Et si j'avais cette envie farouche d'apprendre le grec, c'est parce que à peine adolescente, j'avais découvert dans la bibliothèque municipale de la ville où je résidais l'anthologie de la littérature grecque de Brasillach, puis le livre de Marguerite Yourcenar, La couronne et la lyre. Dans ces deux livres, il n'y avait que de la poésie. Donc, à mon avis, il manquait quelque chose. Il manquait un ouvrage qui donne aussi à lire les grands textes en prose de la littérature grecque. À quoi s'ajoutait que j'avais envie de faire un livre dont l'empan chronologique soit plus vaste que ceux que j'avais pu avoir entre les mains. Donc voilà, l'idée c'était de rendre accessible et le pur plaisir indépendamment de toute préoccupation universitaire ou savante. Donc les textes ont été choisis pour leur beauté, pour leur intérêt parfois intellectuel, mais d'abord pour la manière dont ils peuvent nous toucher. Je crois que ce sont tous des textes qui ne nous laissent pas indifférents.
Bien sûr, et là-dedans évidemment il y a les textes chrétiens dont nous allons parler plus longuement. Alors nous passons à Benoît Guin, parce que nous en arrivons maintenant à la présence des textes chrétiens dans des ouvrages consacrés à l'histoire et à la gloire de la langue grecque. Alors qu'en est-il au fait ?
Comment justifier en quelque sorte la présence des textes chrétiens dans cette vaste anthologie ? Tout d'abord, à un niveau élémentaire, une question de nombre, car à s'en tenir à la période que couvre cette anthologie, c'est au moins une centaine d'auteurs qui se distinguent par leurs écrits variés. Mais naturellement, il y a un niveau plus profond sur lequel il convient de s'interroger. Quel est, pour le chrétien, le sens de la littérature ? Alors, le chrétien peut dire, comme le héros de Terence, « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Il n'y a pas, de la part des chrétiens, de désintérêt, encore moins de mépris, même si il est juste de rappeler qu'il y a quelques exceptions, mais très rares. Cependant, le chrétien n'a pas le souci de son épanouissement personnel. Origène, dont nous reparlerons sans doute, conçoit le christianisme comme le degré le plus élevé de la formation intellectuelle ou paideia. En outre, le chrétien croit que Dieu s'est incarné, s'est fait verbe ou parole. Et donc, il en découle pour le chrétien la nécessité de communiquer cette parole et de la mettre par écrit partout, car le christianisme n'est pas attaché à une culture particulière. Et de là, par exemple, le recours à la rhétorique, l'usage d'exemples nombreux pris aussi bien dans l'histoire grecque ou romaine que dans les grandes figures bibliques. Le recours à la critique textuelle, grâce à la science philologique que les chrétiens ont hérité des savants d'Alexandrie. Et certains, d'ailleurs, les dépassent en remontant parfois du grec à l'hébreu. Recours encore à l'interprétation, à la science de l'interprétation ou herméneutique. Comme les païens, les chrétiens usent de l'allégorie. Je peux donner un exemple très simple tiré d'Origène à propos des compartiments, des logements de l'arche de Noé. Il écrit dans une homélie sur la Genèse, « Ce sont ces logements que vise le prophète quand il dit « Va, mon peuple, entre dans tes logements, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que ma colère ait passé. » Citation d'Isaïe. La comparaison s'impose donc, continue Origène, entre ce peuple qui est sauvé dans l'Église et tous ces êtres, hommes et animaux, qui ont été sauvés dans l'arche. Et il continue sur la diversité de ces appartements, figure de la progression différenciée des baptisés. Les chrétiens recourent enfin aux sciences, nous dirions les sciences exactes, car elles permettent notamment l'explication des saintes Écritures.
Luigi Sanchi, vous qui avez tellement travaillé pour faire ces choix et faire ce livre qui est, je le répète, un monument, hein, on n'en fait pas des livres comme ça souvent. Comment avez-vous fait ces choix? Comment avez-vous procédé?
Oui, alors merci beaucoup. Alors ça n'a pas été évident. Disons que notre boussole a été de faire une place à toute la variété de la littérature grecque ancienne, que ce soit époque archaïque, classique, hellénistique, ou romaine et jusqu'à l'Antiquité tardive, mais tout était une question de dosage. Hein. Donc évidemment, il y a des centaines de pages pour Homère, le théâtre attique, les orateurs, les grands historiens, Plutarque, Lucien, etc. On a des beaux chapitres Platon et Aristote, mais on a tenu à avoir des pages, même une seule page, pour tel auteur, soit parce qu'il n'est conservé que dans des petits fragments, donc on ne peut pas présenter plus, soit parce qu'il méritait d'être présent. Il nous a semblé important de montrer que les grands auteurs ne surgissent pas comme des fleurs dans le désert, mais qu'avant eux et après eux, il y a toute une préparation, il y a des devanciers, Et puis, il y a une tradition qui s'installe, et notamment, c'est évident à l'époque hellénistique, qui est un énorme élargissement du monde grec, et qui est le terrain de préparation, en fait, de l'émergence des grandes religions. L'époque hellénistique thésaurise, en fait, le patrimoine grec classique. Hein. C'est là que on a cette idée de la Grèce classique comme d'un patrimoine à transmettre par l'école, par les universités, c'est celle qu'on peut appeler les universités de l'époque. Mais en réaction à ce que disait Monsieur Guin, il me plaît de souligner que, en fait, le christianisme et le judaïsme, notamment, ce sont des liens que nous avons aujourd'hui, qui sont encore vivants, avec ce monde antique, et notamment ce monde hellénistique et romain, alexandrin, où le judaïsme d'expression grecque a pu fleurir, d'où est né donc le christianisme. Et ce qui est fascinant, c'est que donc, grâce à notre anthologie, enfin j'espère en tout cas, que les lecteurs sensibles aux origines du christianisme vont découvrir tout l'univers spirituel, intellectuel, culturel et social qui entoure cette Méditerranée antique, finalement unifiée d'abord par les Alexandrins, puis par les Romains. Et inversement, le lecteur va découvrir la grande variété religieuse, notamment les variétés de christianisme, hein, les différentes sectes qui par la suite ont été se sont battues entre elles jusqu'à l'émergence d'une orthodoxie. Mais voilà, on va découvrir un christianisme qui est très varié, en fait, hein, avec des textes qui par la suite ne sont pas devenus canoniques, mais que nous, en tant qu'historiens, dans une approche encyclopédique, nous devions de présenter, ne serait-ce que parce qu'ils donnent l'origine à des traditions, par exemple sur l'enfance de la Vierge Marie. Voilà, donc tout ça, c'est dans des évangiles apocryphes qui finalement méritent d'être connus parce qu'ils entrent, non pas dans le canon, des textes reconnus comme inspirés, mais dans une vaste tradition qui arrive jusqu'à nous.
Et qui a tout de même nourri l'histoire de l'Église de manière très féconde. Hein, c'est pas... ouais. Tout à fait. Alors, Laurence Plasnet, alors maintenant, vous, votre livre est une approche différente. Ce sont des traductions, c'est en français. Donc, ça rend le livre beaucoup plus facilement abordable, si je puis dire, par le grand public. Et comme vous avez dit tout à l'heure, vous pensez que ce sont des lectures qui méritent d'être lues par tous. Quelle est la place des textes chrétiens? Bon, je voudrais faire aussi une parenthèse pour dire qu'il y a deux points communs entre ces deux livres. Le premier, c'est que les deux partent de Homère. Évidemment, c'est le départ inévitable, hein, 8e siècle. Et le deuxième, c'est Emmanuel Blanc qui a collaboré aux deux livres et de manière tout à fait efficace, je pense, et considérable, dont il faut saluer le travail. Alors, on revient à l'anthologie. La place des textes chrétiens.
Alors, la place des textes chrétiens n'était pas une sorte de requis au début, hein, puisque l'idée était de suivre vraiment mon propre goût. J'avais la chance d'avoir un éditeur qui me faisait confiance, hein, donc de retenir les textes qui me semblaient les plus beaux pour séduire. Très vite, il est apparu que cela m'amenait à faire une espèce de panorama assez général de la littérature grecque et parfois à introduire des textes ou des auteurs que j'aurais éliminés parce que c'était un manque qui semblait criant. Tous les professeurs de grec remarqueront qu'il n'y a ni Isocrate ni Lysias. C'est mes souvenirs un peu pénibles d'élèves qu'on a embêtés avec leurs discours, donc je les ai éliminés méchamment de ce texte. Pour la littérature chrétienne, il se trouve que depuis les années où j'ai appris le grec, je suis devenue professeure de littérature française du XVIIe siècle et je suis une spécialiste de Port-Royal. Je suis présidente de la Société des Amis de Port-Royal depuis quelques années, directrice du Centre international Blaise Pascal. Et ces lunettes un peu particulières m'amènent à considérer l'apport que la littérature grecque, la patristique, les pères du désert ont pu avoir sur la littérature française. Donc, la préoccupation qui était celle de la réception de la littérature grecque dans la littérature française à partir du XVIe, XVIIe siècle m'a évidemment guidée. Et à ce moment-là, les préoccupations très souvent religieuses qui ont été celles des auteurs, puisqu'il n'y a guère d'intérêt profane pour la littérature avant le milieu du XIXe siècle, m'a conduite à privilégier parfois des textes qui avaient nourri ces auteurs. Par exemple, j'ai donné des pages de Grégoire de Nazianze. Hein. C'est un auteur merveilleux dont aujourd'hui on ne peut pas trouver, quasiment pas trouver, de traduction en français accessible au grand public. Donc, je me suis mise à avoir un état d'esprit un peu militant pour qu'on redécouvre ces auteurs grecs, disons, tardifs, hein, post-hellénistiques souvent, qui néanmoins avaient eu une importance considérable dans le façonnement de notre propre littérature. Les rencontres avec Racine, par exemple, sont nombreuses, avec Pascal. Alors parfois, je les ai indiquées dans les notices, hein, comme le but n'était pas de faire un livre qui soit lourd, qui soit pesant, une espèce de traité universitaire dogmatique, ça reste assez léger. Mais il est évident que les textes retenus sont des textes qui ont tous des incidences. Je viens de donner l'exemple de Grégoire de Nazianze. Certaines des pages à tonalité ou coloration autobiographique de Grégoire de Nazianze ne peuvent pas ne pas faire penser à Chateaubriand, par exemple. Et il est très vraisemblable que Chateaubriand connaissait ces textes en traduction, ou bien peut-être aussi en traduction latine, tout simplement. Donc voilà, c'est une manière de restituer une mémoire dont je crois que la perte handicape notre propre sentiment de notre littérature.
Merci beaucoup, et je précise d'ailleurs que Grégoire de Nazianze est un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. D'ailleurs, il est connu comme Grégoire le théologien, et ce depuis le 5e siècle. C'est un des plus grands auteurs qui ont collaboré et qui ont participé à la formation des grands dogmes du christianisme. Et à ce titre, évidemment, mais en même temps, c'est un poète, c'est quelqu'un qui avait une formation classique extrêmement poussée. Alors, c'est l'occasion peut-être, Benoît Guin, pour parler de Grégoire et de Basile de Césarée, son ami et autre grand-père de l'époque cappadocienne, qui, lui, dans un discours qui s'adresse aux jeunes, comment tirer profit des lettres grecques, a donné peut-être la clé de lecture de cette littérature profane par les chrétiens.
C'est un petit écrit qui n'est pas une lettre, encore moins une homélie, bien qu'elle soit parfois classée parmi elles, adressée à de grands adolescents, peut-être apparentée à Basile, et c'est à la fois en évêque et en peut-être comme oncle que Basile s'adresse à eux pour leur dire, en deux mots, que les connaissances profanes ne sont certes pas inutiles, notamment celles qui contiennent des préceptes moraux. Et il ne faut pas perdre une seule occasion d'en tirer profit. D'en tirer profit, précisons, pour l'âme. Car ce n'est pas pour, disons, briller au milieu de ses condisciples, de leurs condisciples, ce n'est pas pour l'épanouissement personnel. Et ce petit écrit qui a eu une fortune tout à fait considérable à partir du XVe siècle, puisqu'il a été le premier texte de Basile de traduit en latin en 1402, il a connu ensuite, je crois, plusieurs dizaines d'éditions, ce point de vue provient, on en est maintenant sûr, d'Origène, qui a exprimé quelles étaient, selon lui, les étapes ou les degrés de la formation du jeune chrétien. Première étape, la musique, entendons-nous, les disciplines de base, lecture, écriture, musique sur la lyre enseignée par le sitariste. Deuxième étape, préparation à la philosophie, et troisième étape, la philosophie est elle-même une préparation au christianisme. En outre, le christianisme n'est pas exclusif et, j'allais dire fait flèche de tout bois, est très friand d'emprunt. C'est l'image des dépouilles prises par les Hébreux aux Égyptiens, épisode raconté dans le livre de l'Exode. Donc, la lecture des auteurs helléniques, païens, si l'on veut, constitue une propédeutique, une préparation à la lecture des saints livres. Il faut, nous dit Basile, avoir commerce avec tous les écrivains, du moins ceux dont la fréquentation est utile pour l'âme.
Alors, on peut, pour conclure cette émission, proposer des lectures par lesquelles on peut éventuellement commencer de se plonger dans ces ouvrages absolument énormes. Luigi Sanchi, oui.
Je voulais justement rebondir et proposer un fragment qui fait deux lignes pratiquement. Et c'est un fragment du premier historien, en fait le fondateur, on pourrait dire, de la science historique, Hécaté de Milet, qui a vécu entre la fin du 6e et début du 5e siècle. Et c'est intéressant parce qu'il critique la mythologie grecque, c'est-à-dire qu'il illustre cette critique de la religion païenne, qui est un thème fondateur de la philosophie grecque jusqu'à l'avènement des grandes religions monothéistes. Alors voilà ce qu'il dit dans le prologue de ces généalogies. Il dit « Je décris ces événements dans leur vérité telle qu'elle m'est apparue, car les récits des Grecs existent dans des versions multiples et ils sont, me semble-t-il, ridicules. » Voilà, donc ça c'est le début de son livre d'histoire. Il montre la subjectivité de l'historien et son regard critique, notamment vis-à-vis de la multiplicité de versions qui est synonyme donc de fausseté et du ce qu'il trouve donc caractère ridicule.
C'est peut-être déjà une annonce des monothéismes qui vont arriver.
En tout cas, c'est sur cette critique-là que ces monothéismes vont pouvoir se fonder.
Voilà. Laurence Ploisnet, le mot de la fin peut-être ?
Oui, ça va être un mot de la fin pour la littérature essentielle en temps de Covid et non pas inessentielle. Je prendrai 4 vers d'un texte sur la poésie de Grégoire de Nazianze qui écrit ceci. « Enfin, dans les mots qui m'affligent, j'ai trouvé là à me consoler, pareil à un vieux cygne dont les ailes en bruissant chanteraient pour moi-même, non pas quelques traînes, mais un hymne d'adieu. » Et il remplace le poème funèbre qu'est le traîne par un hymne, à mon avis, solaire. Vive la poésie et le grec.
Et c'est un des plus grands dogmaticiens de l'histoire de l'Église qui dit ça. Donc, merci beaucoup pour cette conclusion due à un père de l'Église. Alors, évidemment, que faire ? Il faut lire beaucoup. Les hellénistes prendront un plaisir énorme à se plonger vraiment dans la lecture de ce volume paru aux Belles Lettres, donc les Lettres grecques, anthologie de la littérature grecque d'Homère à Justinien, paru aux Belles Lettres en 2020. Puis, un ouvrage, je dirais, plus abordable, en tout cas pour une première rencontre avec la littérature grecque jusqu'à la fin de Byzance, jusqu'à la chute de Constantinople, 1453, dont plusieurs textes chrétiens et testamentaires dont nous n'avons pas parlé, mais qui sont présents. Anthologie de la littérature grecque de Troie à Byzance, 8e siècle avant Jésus-Christ au 15e siècle après Jésus-Christ, traduction d'Emmanuel Blanc, texte choisi et annoté par Laurence Ploisnet. Luigi Sanchi, Bulmaguin, Laurence Ploisnet, un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Nos remerciements à Anne Pérez pour la réalisation et à Loïc Duros pour la prise de son de cette émission qui a été enregistrée grâce à l'accueil de l'Institut d'Histoire du Droit Jean Godemet dans ses locaux au Collège Sainte-Barbe. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et voici maintenant le service protestant.